Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de Partager le savoir, je reçois aujourd'hui Laurie McPherson, qui est américaine et qui enseigne le français dans différentes écoles d'ingénieurs à Paris. Laurie McPherson, vous avez un parcours qui n'est pas banal. Vous êtes un pur produit nord-américain, puisque vous êtes née au Texas, je crois.
Oui.
Et votre famille est établie en Nouvelle-Angleterre.
Dans le Maryland.
Le Maryland.
Oui.
Et vous êtes informaticienne de formation. Et un beau jour, vous avez décidé d'abandonner tout ça et de venir en France et de vous consacrer à la langue française. C'est une démarche qui est peu ordinaire. D'où vous vient cette tentation de la France et ce goût pour le français ?
Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un parcours assez original, disons. J'ai repris mon intérêt dans le français parce que je me suis trouvée à un croisé professionnel et je m'intéressais à l'international dans une carrière dans les relations internationales. Et donc, je me suis dit, d'abord, il faut que je perfectionne une langue étrangère. Et comme j'avais commencé au lycée avec le français, qui faisait à ce moment-là à peu près 20 ans, j'ai décidé de reprendre le français.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et vous aviez un goût particulier pour la culture française ou le mode de vie français ? Vous avez des ancêtres français ?
Comme presque tous les Américains, je suis un peu un exemple du melting pot. Donc oui, j'ai un héritage français, mais parmi d'autres héritages, je ne sais pas, ma mère m'a chanté en français quand j'étais petite. J'étais peut-être la seule enfant de 6 ans qui savait chanter Chevalier de la Table Ronde. Mais sinon, oui, la culture française était toujours quelque chose de, comment dire, j'ai du mal à trouver un mot, de quelque chose d'exotique vu des États-Unis, mais aussi d'intellectuel. D'après ce que j'ai appris au lycée, on a étudié la littérature française. Et donc l'esprit de débattre, de critiquer, de discuter des idées, ça m'a toujours attirée.
J'ai connu pas mal d'Américains qui se sont établis en France et qui, d'une certaine manière, étant seulement Américains, pensaient qu'il leur manquait une partie de leurs racines s'ils ne venaient pas en Europe ou s'ils ne s'intéressaient pas à la culture européenne. Vous pensez que c'est vrai ou c'est une démarche fondamentale ?
Oui, je peux dire que dans mon cas, je suis venue en Europe quand j'avais 21 ans. J'ai fait un stage en Finlande et j'ai voyagé pendant 5 mois partout en Europe. Et c'est vrai que ce voyage-là m'a donné un sens d'histoire qui n'existe pas aux États-Unis. Regardez par exemple une ville comme le Luxembourg, complètement entourée de murs qui protégeaient la ville à une certaine époque. Ça donne un sens d'histoire qui est impossible d'avoir aux États-Unis.
Laurie McPherson, vous vivez maintenant à Paris depuis et en France depuis environ 4 ans.
Oui, c'est ça.
Vous êtes devenue très française, je crois. Et on peut dire que le début de votre vie en France n'a pas été tout à fait facile. Il a fallu retrouver du travail. Et vous enseignez, si j'ai bien compris, actuellement l'anglais, enfin l'américano-anglais dans des écoles d'ingénieurs.
Oui, j'enseigne dans une école d'ingénierie Epitech. J'ai des élèves qui sont obligés d'avoir des compétences en anglais. Et donc, en fait, ça fait partie aussi de ma formation. C'est un stage par le biais duquel que je fais ce travail.
Très bien. Par ailleurs, vous terminez un diplôme, une thèse en études sociales, politico-sociales, je crois. Donc, vous faites des recherches en France. Et puis, bientôt, vous allez travailler pour votre propre ambassade américaine à Paris, je crois.
Oui, tout à fait.
Bien. Donc, votre démarche est intéressante. Elle est multiculturelle, elle est multidisciplinaire. C'est ça qui est le plus étonnant, parce que vous êtes reconverti de l'informatique à la littérature au droit, du droit à l'enseignement des langues. Et c'est un parcours qui n'est pas très courant, qui est très occupé, finalement.
Le droit, j'ai fait un diplôme de droit parce que je m'intéressais aux relations internationales. Donc, quand j'étais à la fac de Poitiers, je me suis dit que le droit serait une bonne façon d'apprendre sur tout ce qui est relations internationales parce que ça touche, le droit touche à tout aspect de la vie quotidienne.
Alors, Laurie MacPherson, je dois avouer que grâce à vous, j'ai fait une découverte magnifique. C'est la découverte du collège de Middlebury, qui est basé dans le Vermont, je crois. Middlebury est un centre universitaire qui est très ancien. Vous disiez qu'il n'y avait pas le sens de l'histoire aux États-Unis, puisqu'il a été créé en 1800. Donc c'est une école très ancienne, mais qui s'est intéressée aux langues étrangères à partir de 1915 en créant différents collèges d'apprentissage des langues étrangères, c'est-à-dire pour les Américains, des langues autres que l'anglo-américain. Et il y a actuellement, dans ce cadre absolument idyllique, dans la belle campagne du Vermont, un collège international de Middlebury où il y a 9 langues étrangères, 9 collèges différents où sont enseignées non seulement les langues, mais la culture et la civilisation, les arts également. Alors ces 9 langues différentes sont, si j'ai bien compris, l'arabe, le japonais, le chinois, le portugais, le français, le russe, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Autrement dit, les 9 langues qui sont les plus parlées dans le monde occidental et dans la civilisation occidentalo-internationale, je dirais.
Oui, tout à fait.
Alors, je me suis plus particulièrement intéressée, évidemment, au collège français. Mmh. Vous pourriez nous en parler un peu, puisque vous y avez travaillé et vous êtes un honorable enseignant et membre de ce collège illustre.
Je ne suis pas ancienne enseignante de ce collège. Je suis ancienne étudiante et j'ai travaillé en qualité d'assistante bilingue, donc dans l'administration. Mais oui, l'école française, on l'appelle l'école française, a vu le jour en 1916, un an après le départ en général, qui a commencé avec l'école allemande en 1915. Comme vous avez remarqué, il y a 9 langues qui sont enseignées chaque été sur le campus de Middlebury. C'est une ville de à peu près 8000 habitants qui accueille à peu près 1000 étudiants de langue chaque été dans ces 9 écoles de langue.
Ces sessions d'été sont de 9, 7 ou 6 semaines, je crois.
C'est exactement. Mmh. Ça dépend. Normalement, les sessions sont de 7 semaines. Mais pour les langues avec un alphabet différent que la nôtre, le russe, le japonais, le chinois et l'arabe, ces écoles-là tiennent une session de 9 semaines.
9 semaines.
Et puis les programmes de deuxième cycle ont des sessions de 6 semaines.
Donc, Middlebury est un endroit que j'ai qualifié de paradis intellectuel lorsque je l'ai découvert parce que non seulement le cadre est tout à fait remarquable, c'est un campus à l'américaine, mais très paysager, verdoyant. Et en plus, on a la chance de le découvrir en plein été, donc c'est absolument splendide. Et il y a là la rencontre de gens d'horizons très très différents, qui sont nombreux, qui sont très ouverts, qui échangent énormément. Et non seulement c'est un stage d'enseignement, mais on peut qualifier cet endroit de lieu d'immersion totale dans une civilisation.
Absolument. C'est ça l'aspect qui distingue Middlebury d'autres programmes, d'autres universités de langue, que c'est la méthode d'immersion totale. Toute la faculté, tous les professionnels qui travaillent pendant l'été sont de langue maternelle ou sont d'autres personnes qui ont un niveau de langue très approfondi, donc ils sont comme bilingues ou comme de langue maternelle. Et les étudiants sont obligés de s'engager dans ce qu'on appelle pledge, language pledge. C'est un engagement d'honneur de parler uniquement la langue de leur école. Et même s'il y a 9 écoles de langue pendant l'été, ce sont des îlots. En fait, des îlots de civilisation et de langue, comme vous dites, où les gens se reconnaissent par les petits badges qui indiquent leur école. Et les étudiants sont priés de rester dans leur petit îlot pour vraiment créer le plus que possible une petite monde de leur langue.
Oui, j'ai vu qu'on y faisait, il y a beaucoup d'activités artistiques, théâtrales, musicales. Tous les soirs, pratiquement, il y a des concerts, des récitals ou des actes de pièces de théâtre, une récitation de poèmes. Tout le monde dîne, déjeune et ensemble. Il y a des promenades organisées, il y a des sessions touristiques même. Et des cours intenses, généralement le matin d'ailleurs, et c'est un stage qui est très très rempli.
Oui, absolument. Ce n'est pas un programme qui est axé uniquement sur la vie académique, la vie co-curriculaire et non pas extra-curriculaire. C'est aussi important que les études. Donc on a à peu près 4 heures de cours par jour. Et il y a des activités planifiées chaque jour, comme vous avez remarqué. Des films, des conférences, des invités spéciaux, des sports, le tennis, le football. Il y a chaque été, il y a un tournoi de football avec... Bon, une compétition très forte entre écoles, des ateliers d'art plastique, de cuisine, de danse parfois, de théâtre. L'école française, chaque année, présente un cabaret où les étudiants sont invités de partager leur sens d'humour, leur capacité de jouer sur scène, de chanter, de danser, de...
D'improviser,
oui. Donc, oui. Il y en a tout.
Par ailleurs, j'ai vu que au cours de ces sessions, quelquefois, il y avait des invités très prestigieux, des écrivains, des littérateurs, des artistes que Middlebury reçoit pour agrémenter le stage et montrer les aspects les plus tentants de la culture choisie. Vous avez été étudiante pour le français.
Oui.
Vous en gardez quel souvenir?
Je pense que on peut dire que c'était une expérience intense. Mais aussi une expérience chaleureuse. Les professeurs, l'administration, tout le monde est là pour créer une expérience inoubliable pour les étudiants. Donc, en quelque sorte, on devient famille.
C'est une sorte de famille, de fratrie,
oui,
comme
exactement.
On dit en français.
Oui.
Et vous vous reconnaissez dans le monde à un signe secret, non? Pas encore.
Non, pas encore.
Bien. Je crois que le Collège international de Middlebury a des antennes dans le monde entier, notamment il a un bureau à Paris, où il enseigne également...
Oui, il y a en France, par exemple, l'école française de Middlebury College a deux centres en France. Il y a le centre de la Madeleine, qui est pas loin de la Madeleine, et qui abrite le programme du deuxième cycle, ce qu'on appelle « graduate », et aussi qui accueille des étudiants du premier cycle, ce qu'on appelle « junior year abroad ». Mais aussi, il y a un centre à l'université de Poitiers qui est ouvert aussi aux juniors, aux étudiants du premier cycle.
Du premier cycle.
Oui.
Laurie MacPherson, je crois que la directrice actuelle du Collège français est une Française.
Oui.
C'est le professeur Germain.
Germain Rutherford.
Et nous pourrions peut-être indiquer de nouveau les coordonnées du Collège international de Middlebury, donc Middle comme milieu et Bury comme Bury. Et c'est dans le Vermont, l'indicatif postal étant le 05 753. Merci Laurie MacPherson, d'abord pour ce parcours personnel tout à fait inattendu et magnifique. Et merci de l'avoir fait découvrir le Middlebury International College.
Merci à vous, je vous en prie.